Hello, hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Déjà, merci beaucoup pour vos retours sur la partie 1 de cet épisode Girl Boss ou Sugar Daddy, parce que vos retours me sont toujours précieux et c'est des sujets à mon sens tellement passionnants que c'est toujours un plaisir d'en parler et je suis contente qu'ils vous aient passionné également. Aujourd'hui, je reviens à vous avec une partie 2, car si vous ne le saviez pas, j'ai enregistré la première partie en 2025. Et nous sommes actuellement, en tout cas à l'heure où j'enregistre ce podcast, en 2026. Et j'ai eu envie de le compléter un peu, d'approfondir un peu le sujet, et notamment les façons de concrètement équilibrer son énergie féminine et son énergie masculine au quotidien dans cette société ultra performante dans laquelle on vit. Et alors, moi qui pensais que j'avais beaucoup parlé dans la première partie, là, je préfère vous prévenir, ça va débiter. Mais vu que vous kiffez ce sujet, je me suis lâchée. Donc on va plonger genre deep water, baby. Alors, remarque numéro 1, si vous n'avez pas écouté la partie 1 de ce podcast, je vous recommande fortement de l'écouter pour savoir de quoi on parle ici. Et remarque numéro 2 s'adresse à vous, messieurs, pour vous dire que ces podcasts vous concernent également. Déjà parce que j'essaye de vous prendre en compte, spoiler, je parle de vous dans cet épisode. Et aussi parce que si vous voulez comprendre pourquoi vos mamans, vos copines, vos amis agissent de certaines façons, pourquoi elles sont soi-disant compliquées, dramatiques, parfois hystériques, enfin soi-disant, ou juste tellement différentes et que vous essayez sincèrement de les comprendre, parce que je sais que beaucoup d'entre vous essayent vraiment, vous devez prendre en compte ces facteurs et c'est bien de venir s'éduquer avec ces ressources. C'est pas juste des questions de personnalité, c'est physiologique, c'est la base du corps humain, c'est la base des fluctuations humaines, des fluctuations hormonales. Hélas, on ne l'a pas assez expliqué à l'école et on a mis les femmes sous pilule pour ranger leurs fluctuations dans des boîtes. Et ça nous a tous mis dans un peu la mouise, quoi. Voilà. Mais après, vous savez ce que Albert Einstein a dit. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Et pour remettre un petit peu cette citation dans le contexte, les femmes dans une société patriarcale, ça peut être un peu pareil. On ne comprend pas pourquoi on ne rentre pas dans le moule, mais en fait c'est juste parce qu'on n'a pas été prise dans l'équation, en tout cas pas suffisamment prise dans l'équation. Bref, tout ça pour vous dire, gardez l'esprit ouvert, messieurs, et mesdames aussi, oui, parce que certaines n'aiment pas qu'on soulève le masque et peuvent se mettre sur la défensive. Mais on n'a pas forcément envie d'entendre la vérité parfois, c'est quand même bien de réussir à y faire face. Donc, après avoir posé les bases et expliqué un petit peu les énergies masculines et féminines dans le premier épisode, enfin dans la première partie, comment elles s'expriment, comment elles s'articulent dans la vraie vie, entre guillemets, et de manière très générale, nous voici à la partie 2 où j'ai envie de vraiment approfondir cette recherche d'équilibre entre les deux. J'avais donné des petits conseils à la fin de la partie 1, mais j'ai encore tellement de choses à dire que je vais vous en donner plus ici. Et accrochez-vous, parce que je suis pas là pour faire du people pleasing. Vraiment pas. Bon, et déjà, on est d'accord, je parle d'équilibre, et trouver l'équilibre, c'est l'histoire d'une vie. J'ai personnellement l'impression d'avoir passé des années à rechercher l'équilibre entre le you go girl et le just fucking rest bitch. Bon, désolée pour ceux qui parlent pas le franglais, mais en gros, ça serait l'équilibre entre le allez, fonce, Alphonse et le est-ce qu'on peut se détendre un petit peu le string, Suzanne? Voilà, ça c'est l'histoire de ma vie, donc je sais, c'est pas facile de trouver l'équilibre parce que au final, c'est vraiment un vrai sujet de savoir quand cravacher, c'est-à-dire cravacher quand c'est le moment et être dans notre énergie masculine, et de savoir cueillir des pâquerettes quand c'est le moment aussi, c'est-à-dire être dans notre énergie féminine. Je me répète, ça ne s'adresse pas qu'aux femmes. Tous les êtres vivants, tous les hommes ont eux aussi une part d'énergie féminine et une part d'énergie masculine. Le truc, c'est de savoir quand basculer dans l'une ou dans l'autre. Si tu lèves les yeux au ciel parce que c'est trop perché ce que je te raconte ici, et que tu es un bonhomme full testostérone ou alors une girl boss qui n'a pas le temps avec ses conneries, je te conseille d'aller écouter la première partie où j'explique ces termes. Bref. Du coup, pour vous parler de tout ça aujourd'hui, j'ai envie de revenir à ces 6 derniers mois de début 2026, voire encore un petit peu aujourd'hui actuellement, parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être remarqué, ou pas, parce qu'au final tout le monde s'en fout, et c'est très bien, mais j'ai eu un petit très gros coup de mou ces derniers mois. Et je crois même que ça a été la plus longue pause depuis que je suis auto-entrepreneur. D'ailleurs, petit aparté à ce sujet, je sais que je parle souvent d'auto-entrepreneuriat pour illustrer les hauts et les bas de la vie et illustrer ce stress et tout ça. Mais tout ce que je raconte peut bien évidemment aussi s'appliquer à ceux qui ne sont pas auto-entrepreneurs. C'est juste que quand on est auto-entrepreneur, ben, on dépend littéralement de soi en fait. Si on bosse pas, on n'a pas d'argent, on n'avance pas. On n'a pas de congé payé ou de congé maladie. On peut pas dire OK, pousse et se faire arrêter en arrêt psy. Alors oui, c'est notre choix, oui, il y a des avantages, mais the point is que l'auto-entrepreneuriat, c'est à mon sens un des gros challenges pour apprendre à doser son énergie masculine, donc le go-go-go, l'ambition, la performance, etc., et son énergie féminine, qui est le repos, l'intuition, le flow. Et du coup, pour revenir à mon expérience de ces derniers temps, la team de 2025 était à fond. Genre à fond. Je voulais connaître le potentiel de mes entreprises, je voulais m'assurer quelque chose de stable sur le long terme, je voulais lancer une dynamique dans ma vie professionnelle. Mais le problème, c'est que l'entrepreneuriat et la vie en général, on va se le dire, c'est jamais stable. C'est un marathon, c'est un long voyage. On ne sait jamais ce qui va arriver et cravacher pour la sécurité en se disant je me sentirai plus en sécurité financière, émotionnelle, matérielle, tout ce que vous voulez. Quand j'aurai X, Y, Z, c'est une illusion. Et comme tout le monde, je savais que c'était une illusion, mais... Et j'avais l'énergie. J'avais l'énergie, j'avais la niaque, et j'ai fait quand même le lièvre. Pour la fable du lièvre et de la tortue. J'avais connaissance de ces énergies féminines et masculines, et d'éviter de tomber dans l'un ou dans l'autre, parce que je sais que ça avait des risques, mais je sentais cet élan de girl boss. Tu vois, j'avais envie, là, 2025. C'était mon année. Et ça a été mon année. C'était trop cool. Et d'ailleurs, c'est le premier point où je veux en venir. C'est que c'est OK d'avoir ces élans. C'est OK d'avoir de l'ambition. C'est OK d'en vouloir plus, de vouloir performer, de vouloir hustle, comme on dit. Homme ou femme, c'est tout à fait sain de vouloir évoluer, grandir, sortir de sa zone de confort et même à un certain degré de se prouver. Mais c'est aussi important de savoir redescendre et de se poser même pendant ces périodes de hustle, ces périodes de rush, d'intensité. C'est important d'avoir des objectifs et de savoir vraiment se reposer entre chaque étape pour atteindre ces objectifs. C'est important de savoir dire non à certains projets ou de poser certaines conditions. C'est important de ne pas rester uniquement dans son système nerveux sympathique et de rebasculer dans son système nerveux parasympathique. Je sais pas si je vous ai perdu quand j'ai dit ces derniers trucs, mais je sais plus si j'en ai parlé dans la première partie de ce sujet. Mais pour comprendre l'équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine, il faut aussi comprendre comment fonctionne notre système nerveux autonome. C'est à la mode en ce moment, on parle souvent de système nerveux, donc vas-y, je vous l'explique en 2 minutes. Notre système nerveux autonome possède deux grands modes de fonctionnement. On a le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. C'est comme si notre corps possédait deux pédales internes. On a une pédale d'accélération et une pédale de frein. Pour illustrer tout ça, imagine que tu es tranquillou en train de cueillir des baies dans la forêt et que là, il y a un lion qui surgit devant toi. À cet instant, ton cerveau déclenche un mode d'urgence. C'est ce qu'on appelle le système nerveux sympathique. Le cœur accélère, la respiration devient plus rapide, le sang est envoyé vers tes muscles pour courir ou pour te battre. En revanche, tout ce qui n'est pas indispensable à ta survie immédiate est mis en pause. Donc la digestion ralentit, le système immunitaire et le sommeil passent au second plan, et la reproduction n'est clairement pas une priorité. Genre, Janice, c'est clairement pas le moment d'avoir un enfant. Du coup, le message de ton corps est simple, survie maintenant, le reste attendra. À l'inverse, lorsque le danger est passé, le système nerveux parasympathique prend le relais. C'est le mode repos, digestion, réparation. Le rythme cardiaque ralentit, la respiration s'apaise, la digestion fonctionne correctement et les hormones se régulent. Le corps peut réparer ses tissus et se consacrer, pardon, à des fonctions de long terme comme la fertilité ou la récupération. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes, en tout cas pour la plupart d'entre nous, hein, parce que peut-être dans certaines régions du monde c'est le cas, nous ne sommes plus poursuivis par des lions. Mais notre cerveau réagit de la même façon au stress, aka le lion. Genre, notre corps réagit de la même façon un vrai lion ou un stress. Les réactions du corps sont les mêmes. Donc là, sauf que c'est pas un lion, mais c'est un email stressant, c'est des soucis financiers, c'est une charge mentale importante, une pression professionnelle, une relation toxique, la peur de ne pas être à la hauteur. Tous ces, entre guillemets, lions modernes vivent dans nos têtes. Mais pour notre système nerveux, la menace paraît tout aussi réelle. Résultat, beaucoup de personnes passent une grande partie de leur journée en mode sympathique, sans jamais revenir complètement dans cet état de sécurité et de récupération dont le corps a tellement besoin pour fonctionner de façon optimale. Et je sais que vous me suivez bien, donc vous aurez compris à ce stade que le système nerveux sympathique illustre principalement l'énergie masculine, pardon, c'est-à-dire l'action d'avoir, enfin non, l'action, les objectifs, la performance, le mouvement vers l'extérieur. Et le système nerveux parasympathique, lui, est davantage relié à l'énergie féminine, donc la réceptivité, l'intuition, la création, la régénération, la capacité à accueillir, à se poser. Hommes et femmes, nous avons besoin des deux. Le problème n'est pas d'être dans l'énergie masculine, mais le problème, c'est d'y rester en permanence, sans jamais revenir à cet espace de repos et de sécurité où le corps peut enfin souffler. Voilà, donc là, je vous ai expliqué un peu le système nerveux autonome. Dans les grandes lignes, bien sûr, mais pour revenir à mon expérience à moi et au cœur du sujet, la team 2026 a donc commencé l'année très satisfaite parce qu'elle a girl boss et hustle à fond la caisse en 2025, mais voilà, elle est arrivée un petit peu fatiguée, quoi, faut le dire. Et j'étais pas au bout de mes surprises puisque je mets encore actuellement, un moment à me remettre dans le bain. Tout ça pour dire que être très performant, être une girl boss, c'est super, we get shit done. Genre, on se sent ultra bien avec tout ce cortisol qui nous donne des ailes, mais jusqu'à ce que ça nous flingue en fait. On les connaît toutes, les nanas ou les mecs qui peuvent pas s'arrêter de bosser, de faire du sport, tout ce que vous voulez, mais on a toutes et tous notre limite. Ça dépend de la résilience de chacun, de son passé, de ses traumas, de son environnement, etc. Ça dépend de plein de choses. Et ouais, de l'extérieur, ça a l'air super. T'es forte, t'as un objectif, t'es productive, t'es busy, ta to-do list est cochée, you got it all. Mais crois-moi, homme ou femme, mais surtout femme, parce que notre corps est construit différemment, comme j'en ai parlé dans la partie 1, tous les corps et tous les systèmes nerveux ont une limite. C'est comme un emprunt à la banque, et tu le payes bientôt ou plus tard, de différentes façons. Chaque fois que tu pousses après ton point de fatigue, que tu dors plus tard que ce que tu avais besoin, que tu sautes un repas, que tu ignores la douleur, que tu ne fais pas face à tes émotions. Tu apprends à ton système nerveux que ta survie dépend de ce que tu donnes, de ce que tu fais, toujours plus. Tu restes dans ton système nerveux sympathique. À chaque fois que tu ignores le stress que tu mets sur ton corps, tu augmentes la charge de stress, et c'est ton corps qui prend. Alors oui, le stress peut être sain. On a besoin de notre système nerveux sympathique pour faire les choses, pour prendre des décisions, etc. Mais il faut savoir basculer dans l'autre. C'est tout l'intérêt de ce podcast. Être tout le temps dans le go-go-go, le grind et tout ça, c'est comme si tu disais à ton corps que ralentir est égal danger et est égal échouer. Et tous les corps sont les mêmes, on n'est pas fait pour être uniquement dans le système sympathique. Le cortisol augmente, on a le sommeil agité, les muscles tendus, l'anxiété, les problèmes de fertilité. Oui, parce qu'en fait, ton cortisol, pour une femme, ton cortisol, entre guillemets, vole ta progestérone qui est une hormone primordiale pour la fertilité. Comme je l'ai dit plus haut, si ton cortisol est haut et ton corps est constamment stressé, ton corps ne va pas se dire tiens, c'est le moment idéal pour faire un bébé. Non, non. Ça marche éventuellement chez les chevrettes, comme j'ai pu l'apprendre quand j'étais à la DRM, mais pas pour nous, les humains. Non, quand on est stressé, la fertilité, ça ne le fait pas. Et plus tu cours, pardon, oui, on peut le dire aussi, plus tu cours, plus tu pousses, plus fort ton corps parlera. Et un jour, ça doit redescendre. C'est comme un pendule qui oscille de gauche à droite. Plus il va loin d'un côté, plus il va loin de l'autre, jusqu'à revenir doucement au milieu. Moi, j'ai mis 6 ans. Je commence tout juste à retrouver une santé optimale, à combler mes carences et à retrouver un équilibre hormonal. 6 ans à me remettre de tout ce que j'ai infligé à mon corps. Le sport intensif, les troubles alimentaires, l'intensité de la fac de droit, la vie en France dans un environnement inconnu. Certaines relations qui n'étaient pas très bénéfiques, les hauts, les bas de la vie, les deuils, les chagrins, tout ce que vous voulez. 6 ans que j'ai mis pour revenir doucement à une santé optimale. Et d'ailleurs, l'exemple typique d'un corps qui est à bout, c'est les problèmes de thyroïde. Moi, c'est ce que j'ai eu, hypothyroïdie. Et messieurs, c'est ici que je parle de vous parce que ça vous touche aussi. Ça touche d'ailleurs beaucoup les hommes dans les sports de combat qui sont constamment en train de faire le yo-yo pour maintenir leur poids de catégorie. Et quand ça hit, oh boy, ça hit plus fort que n'importe quel uppercut vous avez reçu dans votre carrière. Votre corps vous lâche, vous ne vous reconnaissez plus. Et c'est pas un problème de discipline, de motivation, de sport, de diète, de régime alimentaire. Si vous arrivez à ce stade, messieurs ou mesdames, et je sais ce que c'est parce que c'est ce que j'ai eu, votre corps n'a pas besoin de plus de performance. Il n'a pas besoin de régime. Il a besoin de sécurité. Il a besoin de laisser tomber justement les régimes restrictifs et les séances de CrossFit. Il a besoin d'une alimentation saine, équilibrée, riche en oligo-éléments, en nutriments. Il a besoin de sommeil réparateur. Il a besoin de couper des relations et des environnements qui ne vous servent plus. Il a besoin de déconnecter du téléphone, des stimulations extérieures. Il a besoin de créativité, de balades en nature, de communautés douces et bienveillantes. Il a besoin d'hydratation, d'arrêter l'alcool et les drogues qui fatiguent le foie et surchargent le système, même si on pense que ça n'a aucun rapport. C'est les problèmes de thyroïde, et c'est triste parce qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de femmes sont touchées. Pas mal d'hommes aussi également, mais principalement des femmes. C'est vraiment le corps qui est au bout, le corps qui nous a énormément donné, mais qui arrive à un stade où il nous dit je ne peux plus. Et en fait, c'est vraiment tous les problèmes qui se sont accumulés parce que bah, tu vis ta vie comme si ta valeur dépendait uniquement de tes réussites et du YOLO, you only live once, et que tu traites ton corps comme une machine parce que tu penses que c'est comme ça qu'il faut être pour être cool et valorisé dans cette société. Tu pousses, tu pousses, tu pousses, t'essayes de te conformer à tout ce qu'on te dit, à comment il faut être, à comment il faut faire. Ton corps te dit stop. En hypothyroïdie, ben, il ralentit. En hyperthyroïdie, il accélère. Concrètement, c'est un peu quand j'en parlais avec les lions ou le fight or flight. Donc, soit tu cours et tu te bats, ça peut être de l'hyperthyroïdie, t'es à fond. Et l'hypothyroïdie, c'est plus en mode tu freeze, tu gèles, t'arrives plus à bouger. Mais dans les deux cas, c'est une réponse à un stress, c'est une réponse à un trauma, c'est une réponse à un trop, c'est trop. Et là, j'ai parlé de stress et de performance relative au sport et un petit peu au boulot, mais ça peut aussi être en relation amoureuse, familiale, bref, en relation tout court. Parce que le stress a vraiment d'autres façons de s'illustrer. Par exemple, en relation, c'est est-ce que tu es du genre à compenser, à people please, à ne jamais dire non, à vouloir être partout, à tout anticiper parce que tu ne peux compter que sur toi, ou en tout cas tu le crois. Est-ce que tu penses mériter l'amour, la confiance, l'attention, seulement si tu en fais beaucoup? Est-ce que tu es du genre à sortir tout le temps par peur de manquer un truc important, à boire de l'alcool à cause de la pression sociale, ou parce que c'est ta seule façon de t'amuser, de déconnecter, d'éteindre ton mental? Est-ce que t'es du genre à prendre des drogues parce qu'il faut, entre guillemets, tenir jusqu'à demain matin? À rester dans une relation qui ne te convient plus parce que tu as peur de ne pas trouver quelque chose qui te correspond mieux ou parce que tu t'es trop investi? Parce que tu as honte peut-être? Est-ce que tu es du genre à tolérer des comportements toxiques parce que tu as peur d'être seule ou que tu ne penses pas mériter mieux inconsciemment? Tout ça, c'est du stress pour ton corps. Tout ça, c'est des lions modernes. Tout ça te maintient dans ton système nerveux sympathique. Et là, j'ai encore même pas parlé de l'actualité mondiale actuelle, les guerres, les pénuries, les maladies, l'environnement et les standards de beauté à tenir, la police, le botox, les muscles, la créatine et tralala. Bon, c'est fatigant. Hein, rien que de le dire, je suis fatiguée. Et on se demande pourquoi on est un peu très trop tendu du string. Alors le problème au final, c'est pas tant tout ça. C'est pas d'avoir de l'ambition, des objectifs, d'être super performant, d'aimer sortir, d'aimer le sport intense, qui est tous ces standards de la société, même si oui, ça peut être un gros problème quand même, enfin ça aide pas. Mais en fait, le problème, il faut être honnête avec soi, c'est nous. C'est nous. C'est ne pas savoir quand pousser, quand se reposer. C'est ne pas être honnête avec nous-mêmes et de se retirer de certaines choses, de prendre du recul. C'est ne pas savoir quand aller vite et quand ralentir, quand performer et quand se laisser souffler. Et si vous vous dites non, mais moi j'ai pas ce problème, bah observez-vous sur les points suivants. Est-ce que tu arrives à ne pas regarder ton téléphone de la journée? Est-ce que tu arrives à ne pas prendre ton téléphone dès que tu te lèves et à scroller avant de dormir ou en te levant? Peut-être est-ce que tu arrives à ne pas regarder un film ou à ne pas être distrait en mangeant? Est-ce que tu arrives à fermer ton ordinateur de travail et ne plus y penser du tout? Est-ce que tu arrives à dire non gentiment à des sollicitations? Est-ce que tu arrives à partir en vacances sans penser au travail ou à ta perte de performance? Est-ce que tu arrives à te poser sans culpabiliser? Sans te dire que je pourrais faire ci, que ce soit pour le travail ou pour la maison? Je pourrais faire ça, le linge, j'en sais rien, tout ce que tu veux. Est-ce que tu arrives à te poser sans culpabiliser? Ou est-ce que tu es tout le temps en train d'essayer d'optimiser ton temps? On est dans une société qui nous demande toujours d'être dans l'action, dans le go, dans le faire, dans la performance. Tout va de plus en plus vite. Je le redis tout le temps, mais c'est vrai, et j'écoutais un podcast l'autre jour qui disait qu'avant, les changements se faisaient sur plusieurs générations. La société de consommation s'est construite sur des années. Les générations de nos grands-parents, voire même de nos parents, avaient des années pour s'adapter aux changements, aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, il y a une nouveauté tous les mois. La société évolue super vite. On est constamment en train de se mettre à jour sur tout, que ce soit les nouvelles chaque jour dans le monde entier, les nouvelles technologies, les nouveaux outils de performance et d'optimisation, que ce soit au travail, sur notre santé, notre sommeil. Est-ce que tu as fait des 10 000 pas par jour? Est-ce que tu as nourri ta famille? Est-ce que tu as hit your goal? Franchement, c'est fou, ça fait beaucoup. Toutes ces nouvelles tendances, tous ces nouveaux objectifs. Et à côté de ça, tout est à notre disposition. Tu cherches une information, tu peux l'avoir sur Google, ou mieux maintenant, sur ChatGPT. Les vidéos sur les réseaux sociaux sont de plus en plus courtes. On peut scroller à l'infini. Et tout ça donne un cerveau qui est non seulement habitué à avoir tout ce qu'il veut tout de suite, et donc à ne plus savoir gérer l'incertitude ou cultiver la patience, mais ça donne aussi presque une genre de peur du silence, du calme. Désolée, j'ai un chat dans la gorge à force de parler, je suis même pas au bout. Mais bref, ça nous pompe. Ce sont des stimulations intenses pour nos corps et on s'en rend même pas compte. Le fait d'être au courant de tout ce qui se passe chaque jour dans le monde, plus être au courant par les réseaux sociaux de ce que chacun fait dans sa vie au quotidien, plus de devoir tenir nos performances au travail, au sport, en famille, l'accumulation de toutes ces choses font qu'on est complètement restless. On ne peut pas se poser dans notre tête. On n'arrive plus à éteindre cette machine. On n'arrive plus à écouter notre intuition. Ben oui, c'est plus facile de demander à ChatGPT. Ça prend moins de temps que d'écrire dans son journal intime. C'est moins cher que d'aller prendre des rendez-vous chez le psy. Ça fait moins peur que de se poser en silence. Bref, on n'arrive plus à ne rien faire, à rester au calme, à rester en silence, à ne pas savoir ce que les autres font ou ce qui se passe dans le monde. On culpabilise même pour ça parfois. On n'arrive même plus à partir en vacances ou à dormir tranquillement sans tout documenter ou sans utiliser des applications pour traquer nos statistiques de sommeil. Alors voilà, c'est de ça qu'on parle quand on dit que notre société est à fond dans l'énergie masculine et que notre société est patriarcale. Et nous, notre objectif en tant que femme et en tant qu'homme, c'est d'en être conscient. C'est d'avoir de l'ambition, de faire les choses, de vouloir changer le monde si on veut, mais aussi de se poser, de rebasculer dans son énergie féminine, dans son système nerveux parasympathique. L'objectif, c'est de se sentir en sécurité, même dans les phases de repos et de récupération, même en vacances, même en silence, même seul, même sans stimulation, de se sentir safe, sans culpabiliser. Ton corps n'a pas besoin d'une énième étoile, d'un énième like, de médailles, de diplômes qui le félicitent d'avoir encore dépassé une limite. Ton corps a besoin de la preuve que tu es assez même quand tu ne, entre guillemets, performes pas, même quand tu ne coches pas toutes les cases. Ta valeur, ta personne ne dépend pas de félicitations sur les réseaux sociaux ou de ton palmarès. Et oui, tu vas probablement tomber sur des Karen ou des Suzanne qui te diront « Ouais, ça va, je l'ai fait, c'est possible » ou « Oh là là, on se plaignait pas à notre époque ». Oui, ben, peut-être que vous auriez dû. Peut-être qu'il n'y a pas non plus de médaille à avoir mis sous le tapis. Les temps sont différents. Le stress de notre société est réel. La vie est chère. Les diplômes n'ont plus autant de valeur. On doit se mettre à jour très rapidement, professionnellement, personnellement. Les standards sont le plus fous. Et la société de consommation, n'en parlons pas. Et souvent, les deux questions qu'on va se poser ici, c'est déjà, est-ce que c'est possible de redéfinir l'ambition? Et moi, je pense que oui. Je pense qu'il faut que sa racine soit la confiance en soi et pas la peur. Qu'on ne soit pas ambitieux par peur de manquer, par peur de prouver, mais seulement être ambitieux par l'amour de créer, l'amour de prendre le temps de créer, l'amour d'avoir une vision sur le long terme, un projet sur le long terme. Pas forcément la croissance rapide. Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est possible d'être ambitieux et en même temps de prendre le temps d'apprécier les phases creuses, les moments plus lents, de s'imposer ces moments? J'en parle beaucoup avec mon conjoint parce qu'on est tous les deux auto-entrepreneurs et souvent quand il y a des phases creuses dans nos vies professionnelles, on se dit écoute, profite de ces moments creux parce que quand ça va revenir, tu vas regretter de ne pas avoir profité de ces moments creux. Et très souvent, c'est la vérité. Et d'ailleurs, j'ai fait un post Instagram dessus très récemment où je disais que je cherchais l'équilibre pendant des années sans jamais avoir l'impression de le trouver. Et je culpabilisais même un petit peu pour ça. À chaque fois, je me disais, non mais vas-y, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? T'étais bien lancée là? C'est quoi le gag là? Mais j'ai repensé à la philosophie du Tao, la voie du milieu. Que le funambule ne marche jamais droit sur son fil. Il oscille de gauche à droite, les bras étendus pour trouver son équilibre. Que l'aveugle ne marche jamais avec sa canne juste devant lui. Il tâte à gauche et à droite pour toucher les limites. Alors peut-être tout simplement que c'est ça l'équilibre. C'est marcher sur notre fil en oscillant de gauche à droite, entre action et entre repos, entre rationnel et intuition, entre lumière, obscurité, moment haut, moment bas, entre sollicitation et entre silence. Et pour revenir à notre recherche d'équilibre entre énergie féminine et masculine, si je devais donner des conseils que je prendrais personnellement, genre je les note moi-même là maintenant, donc pour être ambitieux sans se cramer et vivre dans cette société ultra performante sans perdre son âme et sa santé, et se rappeler que sa valeur ne dépend pas de ce qu'on fait, il serait ceci. Et encore une fois, ils sont pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Le premier, la base de la base, savoir se reposer, savoir se poser. Si tu ne peux pas te poser, ne me dis pas juste non, mais vas-y, moi je sais pas me poser, je suis pas comme ça. Ne passe pas au-dessus, creuse. Qu'est-ce que tu essayes d'éviter? De fuir? De quoi as-tu peur dans la vie? Pourquoi ça te saoule? Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait remonter en toi? Est-ce que tu as peur de pas être à la hauteur? Peur de pas être aimé si tu te trouves pas? Si tu te prouves pas? Aie le courage de te poser ces questions et de réapprendre à buller comme un enfant. Ça, c'est vraiment, je pense, un des cadeaux de nous, enfants des années 90, d'avoir connu ce monde sans ordinateur, ce monde sans réseaux sociaux. Enfin, pour le coup, nous, on a connu la transition, mais on a eu un avant-après. Moi, je plains ces nouvelles générations qui ont grandi avec parce que parfois, je me demande si elles ont réussi à s'ennuyer ou à buller ou à ne pas avoir à scroller sur quelque chose. Non, mais nous, je vous rappelle l'époque où on devait apprendre à faire des trucs, quoi. On s'ennuyait, littéralement. Mais c'était bien. On bullait. On se posait pas de questions. On n'avait pas à prouver. On regardait pas ce que les autres faisaient. On savait même pas ce que les autres faisaient. C'était trop bien. Donc bref, comment faire concrètement pour savoir se poser? Moi je dirais, commence par ne rien faire pendant quelques minutes. Regarde autour de toi, respire un coup, apprécie un rayon de soleil, puis rallonge progressivement les minutes. Peut-être commence par méditer aussi 3 minutes, puis 5, puis 10. Bon, cette progression se fait sur plusieurs semaines, hein. Mais juste essaye. Essaye de conduire sans podcast, sans musique. Va marcher dans la nature sans ton téléphone, observe autour de toi, prends une inspiration profonde et regarde à quel point t'en avais besoin, bordel. Parfois, on passe la journée à faire plein de trucs et à un moment, on se pose, on prend une vraie inspiration, comme je viens de faire, et d'ailleurs, je me suis dit ça, genre, on se dit, damn, est-ce que j'ai respiré aujourd'hui? Et vous me direz, what's the point de se poser? C'est quoi le but? Ben en fait, ton système nerveux commence à basculer dans le système nerveux parasympathique. Il commence à se poser, à se rendre compte qu'il n'y a plus de lion. Et à réapprendre que c'est safe d'être calme, d'être présent, de ne pas toujours faire. Et si ça t'intéresse, j'ai enregistré une méditation qui s'appelle Ne rien faire. J'appelle ça une méditation, mais c'est pas vraiment une méditation. Voilà, si ça t'intéresse, elle est sur mon site web. Ensuite, mon deuxième conseil pour revenir, pour trouver cet équilibre entre énergie féminine et masculine, après avoir été se poser, le deuxième, ça concerne le boulot. J'en ai parlé, moi, un 9 to 5 ou un 7h30, 15h30 ici en Polynésie, ce n'est pas mon truc. Sur le long terme, mettre un réveil tous les matins, ça ne me fait pas du tout du bien aux hormones. Même si je me couche tôt. parce que j'ai besoin en fait de me réveiller naturellement. Genre j'ai besoin de que ce soit mon corps qui me réveille et pas un réveil. Et oui, vous pouvez rouler des yeux au ciel. Mais pour vous raconter une petite histoire véridique, et si vous ne me croyez pas, d'ailleurs mon copain était à côté de moi quand j'ai eu cet appel qui était sur haut-parleur, j'ai appelé mon endocrinologue, le médecin du métabolisme et des hormones, pour prendre rendez-vous il y a quelque temps. Le prochain rendez-vous était dans, je crois, presque 2 ou 3 mois, et la secrétaire m'a dit qu'il y avait peut-être une disponibilité, mais que c'était très 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 tôt. Et je lui dis, bah c'est pas grave, je suis à mon compte, je peux quand même me lever tôt de temps en temps, il n'y a pas de souci, etc. Elle a insisté, elle m'a dit, non ma chérie, c'est vraiment très tôt, je vais te mettre plutôt 15h30 tel jour. Et je lui ai dit, ok, merci, mais juste au cas où, c'était quoi l'autre option de créneau? Elle m'a dit, ah, c'est 7h30 jeudi matin. Et mon copain à côté avait les yeux tout ronds, parce qu'en soi, pour des horaires de Tahiti, 7h30, c'est l'heure normale en fait. Genre 7h30, tout le monde est à fond, les écoles commencent, etc. Mais pas pour mon endocrinologue, pas pour ce médecin qui suit des patients depuis des années, qui est très compétent dans ce qu'il fait et qui sait que pour certaines personnes, un rendez-vous à 7h30, c'est très très tôt. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit aparté. Mais bref, pour le boulot, concrètement, comment trouver son équilibre? Parce qu'il faut en parler de ce sujet. C'est vrai que dans la première partie, j'ai juste balancé ça comme ça, mais non, j'ai envie de dire 3 choses en plus sur ce sujet. Premièrement, je pense, et c'est uniquement ma pensée, que pour les femmes, peut-être pour les hommes aussi, mais en tout cas pour nous les femmes, on est moins résilientes sur ce sujet sur le long terme. Je pense que pour nous, ce n'est pas l'idéal de se forcer à se lever tous les jours, tôt. Je pense sincèrement que c'est important de se lever à son rythme. Mais je comprends bien évidemment que la société doit avoir un minimum d'organisation, sinon c'est compliqué. Et bien sûr, j'en ai parlé dans le premier épisode, enfin dans la première partie, ça ne veut pas dire se lever à midi tous les jours. C'est ma pensée, peut-être que je me trompe. En tout cas, personnellement, j'ai vu que c'était pas l'idéal pour moi actuellement. Est-ce que c'est parce que j'ai atteint ma limite avec ces années à me pousser? Peut-être. En tout cas, actuellement, j'ai du mal avec les réveils forcés et récurrents. Peut-être que ça changera, mais pour l'instant, c'est mon rythme. C'est comme ça. Je peux pas le nier parce que je ne suis pas efficace et que ça n'aide personne. Deuxièmement, soyons honnêtes, on doit travailler aussi. J'en ai parlé dans la première partie de ce podcast. L'idée, ce n'est pas de cueillir des pâquerettes et de flâner comme des papillons. Non. On doit idéalement pouvoir subvenir à ses besoins et avoir un minimum d'ambition, c'est cool aussi. Mais là où je pose la nuance en fait, c'est que si on doit aller travailler dans un 9 to 5 ou un 7h30, 15h30, est-ce que c'est possible de choisir un job qui nous plaît un minimum? Peut-être s'il faut changer de poste, aller dans un environnement de travail plus sain, entretenir de bonnes relations dynamiques de travail, se motiver entre collègues, travailler en cohésion, pas se planter des couteaux dans le dos. Est-ce que c'est possible d'avoir des missions plus créatives, de demander du télétravail ou un aménagement d'horaire? Je l'ai déjà dit, nous les femmes, Dieu sait qu'on sait bosser et abattre du travail. Mais on le sait aussi, on grandit mieux dans un environnement sain pour nous. Donc est-ce qu'on peut voir si on peut adapter, remodeler, changer notre environnement de travail? Et si l'objectif c'est vraiment juste d'avoir un job alimentaire, ben raison de plus pour avoir au moins un job chill. Tu vois, par exemple, moi pendant quelques mois, quand j'ai lancé mon entreprise de céramique et que financièrement bah, j'avais un petit peu les chocottes, j'ai travaillé en boutique de prêt-à-porter pour pouvoir souffler un petit peu financièrement parce que la pression financière était à son max. Alors oui, un master de droit en poche, je me retrouve vendeuse, ben et alors? J'ai adoré ce job. J'y ai trouvé mon compte, non seulement parce que j'étais dans un environnement de travail flexible, beau, parce que la boutique était et magnifique. Tranquille, carré, parce que la gérante est carrée, organisée, et quand même super cool, donc la boutique était vraiment à son image. Et en plus, j'aidais les femmes à trouver leur bonheur, à se sentir jolie, à trouver un beau cadeau à offrir, etc. Enfin, au final, ce que je veux dire, c'est que parfois, pour être dans son énergie féminine, il faut savoir mettre son ego de son côté. On s'en fout de l'identité du job, de ton passé, de ton palmarès. Si aujourd'hui tu cherches un job alimentaire, parce que tu dois quand même travailler, choisis-le en te posant ces questions. Comment est-ce que ce job te fait te sentir? Est-ce qu'il te permet d'arrondir tes fins de mois et donc de cueillir des pâquerettes? Est-ce que quand tu rentres chez toi, tu peux laisser le travail au travail et donc buller? Bref, ce genre de concession parfois. Parfois mettre son ego de côté. Troisièmement, concernant le travail, si tu as de l'ambition ou que tu es auto-entrepreneur ou que tu as juste envie de te prouver, c'est totalement ok. Et honnêtement, mais go for it. Genre, on adore les personnes et les girlies qui osent et qui manifestent leur vision. Mais j'en ai longuement parlé déjà. Sois honnête avec toi-même. Prends le temps de te poser aussi. Garde-toi des jours off. Ne cède pas aux stimulations extérieures. Si tu as plein de projets, essaye de les prioriser et de les étaler sur le long terme, voire peut-être sur plusieurs années. Et surtout, cultive ta douceur, cultive ta patience, cultive ta confiance. C'est un long voyage. Profite, respire, plante tes graines doucement. C'est le but même de l'énergie féminine, de faire grandir des graines, de créer la vie, de créer des projets. Arrose tes graines tranquillement et donne-leur le temps de grandir. Apprécie chaque instant. Prends le temps de te poser entre tes objectifs. Prends le temps de te féliciter. Prends le temps de t'émerveiller chaque jour. Ça peut paraître con de dire ça, mais c'est aussi une des façons de revenir dans le moment présent et à son énergie féminine. Sors le nez de tes écrans, de tes plannings, de tes visions à long terme. Reviens aussi dans le présent. Donc voilà, tout ça c'était sur le travail parce que dans la première partie, je crois que j'ai un peu donné l'impression que bah, vas-y, quitte ton job. Mais en fait, on le sait bien que la vie c'est plus complexe que ça et qu'on doit quand même bosser. Donc j'espère que ça peut avoir éclairci un petit peu le sujet. Ensuite, mon troisième conseil pour bien équilibrer ses énergies, et c'est peut-être celui-là qui va pas vous plaire, c'est savoir dire non. En yoga, on appelle ce principe ahimsa, qui signifie la non-violence envers soi-même et envers les autres. Concrètement, c'est se respecter, honorer ses limites, ne pas s'abandonner. J'ai fait un post Instagram à ce sujet qui a beaucoup plu, et du coup je vais en reparler ici, mais en gros, c'est ne pas être un people pleaser. Apprends à poser tes limites gentiment, mais fermement. Apprends à dire non. Apprends à ne pas prendre ce qui n'est pas pour toi. Tu n'es pas obligé de dire oui à tout. Tu n'es pas obligé de boire de l'alcool parce que sinon on va te dire que t'es boring, que t'es ennuyant, que t'es pas fun, que t'es une mamie, que t'es un papy. T'es pas obligé de prendre des drogues pour tenir jusqu'à demain. Mais on s'en fout en fait. Toute la semaine, t'es épuisé par ton mode de vie, ton corps il a besoin que tu... Ton corps a besoin de repos. Il n'a pas besoin que tu prennes de l'extra ou des micros pour tenir le coup. Honnêtement, d'ailleurs, je vais te dire, ton foie, il a plus de 500 fonctions à gérer au quotidien. Et notamment, gérer absolument tout ce que tu consommes, que ça soit de la nourriture, mais aussi ce que tu mets sur ta peau, même ce que tu sens, genre les parfums, etc. Et les drogues que tu prends. Genre, ton foie joue un rôle énorme dans l'équilibre hormonal aussi. Il élimine, bon, pour le dire vite fait, hein, mais il fait tellement plus que ça, mais en gros, il élimine entre guillemets les vieilles hormones et notamment l'excès d'estrogène, qui est souvent associé à l'énergie masculine, car l'estrogène, c'est l'hormone de la croissance. Et souvent, les femmes qui sont dans leur énergie masculine ont des taux élevés d'estrogène comparé à leur progestérone, qui, elle, est l'hormone féminine, car elle est l'hormone du chill, du repos. C'est dit grossièrement. Hein. Mais tout ça pour dire que c'est aussi dans ton foie que l'hormone T4 inactive se transforme en hormone T3 active. Bref, il joue un rôle énorme sur ton équilibre hormonal et thyroïdien et il bosse 24 heures, le mec. Genre, ton foie, il est là H24. Lui, il est à fond. Et tout l'alcool, tous les week-ends, les drogues, les parfums, le plastique, les écrans jusqu'à pas d'heure, essaye de dire non, honnêtement. Ah oui, et alors si tu te demandes quel est le rapport entre les écrans de scroller Instagram le soir, la lumière bleue, etc., et le foie, c'est pour te dire qu'en fait, le foie traite absolument toutes les données qu'on lui donne. Et en médecine chinoise, le foie est associé aux yeux. Donc oui, tu digères aussi ce que tu consommes visuellement. Donc bref, ce que je veux dire, c'est que on dit aujourd'hui que c'est cool d'être au top, de dire oui à tout, d'être partout. Ou au contraire, bah, c'est boring de pas boire, de pas prendre des drogues, de vouloir dormir tôt, de déconnecter des réseaux sociaux. Mais en fait, on s'en fout. Ahimsa, honore tes limites. Tu peux boire un peu d'alcool par-ci par-là occasionnellement, mais aller te mettre une mine tous les 4 matins alors que tu sais qu'en plus t'es crevé et que ton corps te parle. Pourquoi tu t'infliges ça? Pour qui? Pour faire plaisir à qui? Tes vrais amis t'en voudront pas si tu passes quelques heures avec eux et que tu es pleinement présent, même sans drogue, même sans alcool et même si tu rentres tôt. Ils te feront pas la gueule si tu veux pas venir parce que t'es cramé. Et s'ils te font la gueule pour ça, honnêtement, revois ton cercle. Peut-être que tu les aideras aussi à prendre conscience que s'ils ont besoin de se mettre une mine tout le temps, c'est qu'ils ont eux aussi besoin de se lâcher la grappe un petit peu. Et oui, bien sûr, moi j'aime bien faire la fête, moi je me sens bien quand je pense ça. Of course, bébé. Moi aussi, quand je suis full cortisol et que je suis bourrée, je me sens bien. Mais le lendemain, t'es comment? Dans quelques années, t'es comment? Voilà. J'avais juste envie de dire ça. Apprends à dire non. Parfois, t'as envie de dire oui, mais vas-y, let's go. Mais parfois, t'as envie de dire non. Juste dis non. Mon quatrième point, c'est un autre principe important en yoga, qui s'appelle Brahmacharya, la modération. Ici, c'est pour ceux et celles qui, entre guillemets, n'ont pas le choix ou qui veulent quand même en faire. Ceux qui ont de l'ambition, ceux qui ont des enfants, ceux qui ont juste beaucoup de choses à faire au quotidien, ils ont un planning d'enfer. Brahmacharya signifie marcher dans la voie de Brahma. Autrement dit, vivre d'une manière qui nous rapproche de notre essence spirituelle. Traditionnellement, Brahmacharya était associé à la chasteté et à la maîtrise de ses désirs, car dans le contexte ancien, il était vu comme une façon de préserver son énergie vitale, le prana, pour la consacrer à la quête spirituelle. Bon, aujourd'hui, Asie, on peut l'interpréter de manière un peu plus large et plus adaptée à nos vies modernes. Mais en gros, c'est l'art de la modération et de la maîtrise de soi. Et pour faire le lien avec notre sujet, c'est en gros essayer de moins remplir son calendrier, ne pas s'engager dans tout, modérer son activité, garder son énergie, la préserver, ne pas se disperser, que ça soit professionnellement dans les projets, en famille, par rapport à toutes les activités qu'on a, ou personnellement juste dans les réseaux sociaux. Ne pas constamment engager dans les réseaux sociaux, perdre son énergie dedans, à regarder. C'est vraiment cultiver ce principe qui peut aider à trouver l'équilibre, même avec un quotidien chargé. Je pense que c'est mon conseil le plus important aujourd'hui. Peut-être qu'on peut essayer d'étaler ses projets sur le long terme, de poser des conditions. Je sais que personnellement, moi en 2025, pour revenir à mon expérience de ce début de podcast, j'ai dit oui à tout. J'ai enchaîné les projets, je les ai même combinés. En 3 mois, à la fin d'année, j'ai dû faire plus de 1000 pièces. Tout ça toute seule, tout en gérant ma com, la réponse aux messages, les livraisons, ma vie perso, etc. Et c'était ultra intense. Aujourd'hui, je pose les limites. Je répartis mes tâches tout en étant réaliste. Oui, je peux physiquement tourner 60 mugs par jour, mais je vais finir en ayant un torticolis. Donc je me contente de 20 ou de 30. Oui, je peux accepter un projet à 200 pièces, mais seulement s'il m'a été demandé 3 ou 4 mois à l'avance. Oui, je pourrais tenir un atelier ce week-end, mais non, en fait, j'ai envie de le passer avec mon conjoint. Oui, je pourrais passer des heures à scroller sur les réseaux pour m'inspirer de contenu ou des ambitions des autres. Mais non, je suis très bien là où je suis. Mon assiette est suffisamment pleine, mon herbe est verte comme il faut. C'est pas parce que tu pourrais en faire plus que tu dois le faire, tu vois. Brahmacharya, c'est ne pas se voler du temps, ne pas se voler de l'énergie, c'est cultiver la modération et ça peut changer notre vie dans cette société. Je dis ça comme ça, je sais que c'est pas facile, ok? Parce qu'à côté, il faut aussi cultiver la confiance. Je pense que c'est ça qui est difficile avec ce principe, c'est que il faut cultiver la confiance en la vie, que certains projets qui sont trop rush reviendront peut-être plus tard. Mais honnêtement, la sérénité qu'on ressent quand on arrive à se dire que ce qui est fait pour soi nous trouvera toujours, c'est libérateur. Et je pense que ça marche aussi pour l'ambition. Il faut pas vouloir tout tout de suite, être avide. Il faut avoir la confiance de se dire, peut-être plus tard, si ça revient. Je disais d'ailleurs à une de mes copines qui me disait qu'elle avait assez de mal à ce sujet, je lui disais, non mais, il y a eu des projets dans ta vie. Aujourd'hui, avoue que tu es contente qu'ils aient pas fonctionné parce qu'à l'époque tu étais à fond et aujourd'hui tu te dis oh my god, cringe ou alors non, not so much. Mais là c'est pareil. C'est vraiment apprendre à prioriser et à faire confiance. Quand ça sera le moment, ça sera le moment. Quand ça sera le moment, ça reviendra. Si ça revient pas, c'est que c'était fait. Je vais y arriver. C'est que c'était pas fait pour nous. Mon cinquième conseil, il me semble que je suis au point 5, j'en ai un petit peu parlé dans la première partie, c'est cultiver sa créativité. La créativité, c'est pas seulement un truc d'artiste. Si vous ne connaissez pas le livre qui s'appelle Comme par magie de Elizabeth Gilbert, je vous le recommande fortement. Mais en gros, la créativité, c'est partout. Tu peux être créatif dans la façon dont tu fais ton métier. Tu peux être créatif en cuisinant, en peignant, en étant. Il faut suivre sa curiosité, il faut suivre sa créativité et surtout, il faut créer sans objectif, sans vouloir le monétiser, l'optimiser, le montrer sur les réseaux sociaux, sans vouloir faire tout ça. C'est juste créer pour le plaisir de créer. Comme les enfants, ils créent plein de choses, des montagnes en Lego, des dessins, des châteaux de sable, et ensuite ils les cassent et ils passent à autre chose. Juste créer pour toi. Ne cherche pas l'optimisation, la perfection. C'est une forme d'intuition de créer. Et ça te remet dans ton énergie féminine, ça te remet dans son système nerveux parasympathique. Sixième point, j'en ai parlé dans la première partie aussi. C'est faire une activité où on revient à son corps. Je ne l'ai pas assez expliqué, mais la raison pour laquelle une activité où on revient à son corps, c'est important, c'est pour plusieurs raisons en fait. Déjà, Le premier point, c'est parce que l'énergie féminine, c'est la sensualité, à ne pas confondre avec la sexualité, mais c'est-à-dire qu'on aime stimuler nos sens, le toucher, les sons, etc. Donc par exemple la danse, la cuisine, pourquoi pas le théâtre, bref, quelque chose qui te ramène à tes sens, à ton corps. Le deuxième point, et je pense qu'il vous plaira, c'est que par exemple quand on est chassé par un lion, donc ces fameux lions modernes, le corps doit courir pour fuir. Donc parfois, pour repasser dans son système nerveux parasympathique, donc pour déstresser, il faut bouger. En fait, le fait de bouger, c'est comme si on courait pour fuir ce lion et que du coup, le corps a reçu le message qu'on a fait quelque chose, qu'on s'est éloigné du danger. C'est pour ça que le shaking, quand on se secoue dans tous les sens, là, que ça paraît trop bizarre, que tu as l'impression que tu es en transe et que tu te sens bizarre de voir des gens faire ça, ben en fait, le shaking, ça nous fait du bien. Parce que le fait de bouger son corps, ça envoie un message à ton système nerveux parasympathique que tu as fui le lion. Pour certains types de stress, ça peut aider. Parfois, il faut savoir être calme, se mettre en méditation, et parfois, il faut bouger. Donc, le fait de bouger son corps dans une activité qu'on aime, ça nous permet de sortir de cet état de stress permanent. Mais attention, encore une fois, faire trop de sport ou se forcer à faire des sports qu'on déteste, voilà, c'est pas ce que je veux dire ici. Ok? Septième point. Lire des livres fantastiques ou des romans sans objectif, c'est-à-dire ne pas toujours être dans le rationnel, le concret, le développement personnel, vouloir optimiser ses lectures et ce qui se passe dans le monde, comment être meilleur, etc. Pour vraiment concrètement déstresser un bon coup, moi je pense qu'il faut se laisser voyager, rêver, imaginer. Et si vous voulez des livres fantastiques adultes, je vous recommande à 1 milliard de % les livres de Sarah James, si je dis correctement, et notamment les tomes Crescent City ou les Kelleana. Parce que c'est des romans fantastiques adultes qui sont incroyables, ils sont bien écrits, genre quand t'es dedans en fait, tu peux absolument pas les lâcher. Je crois que je connais aucune personne qui a pas aimé les Crescent City. Donc vas-y, si tu veux des livres, go. En plus, ils sont super épais, genre ils sont aussi épais que des dictionnaires, moi j'adore, parce que c'est un peu mon côté. Nerdy, mais même si t'aimes pas lire, je te jure, tu vas plonger dans cet univers, tu vas te déconnecter de la réalité, c'est incroyable. Et ensuite, les romans entre guillemets sans objectif, mais qui nous laissent vraiment ce sentiment de bonheur et de simplicité en fait. Moi, mes romans préférés, c'est peut-être des romans de meufs, mais écoute, ça fait l'affaire. Il y a le livre Ensemble c'est tout de Anna Gavalda, un classique. J'aime beaucoup aussi Les Lendemains de Melissa d'Acosta. Et j'aime aussi Mange, Prie, Aime de Elizabeth Gilbert. C'est des livres qui se lisent juste pour le plaisir de se lire, pour le plaisir de déconnecter. Et ça fait du bien en fait, de pas toujours avoir notre cerveau qui optimise tout. Donc voilà, lire des livres fantastiques ou des romans sans objectif, entre guillemets, c'est un de mes conseils pour équilibrer ses énergies et revenir dans une énergie plus douce. Ensuite, le huitième point, c'est vivre avec ses cycles menstruels, enfin ses cycles hormonaux. Bon, j'en ai parlé dans le premier épisode, donc je vous renvoie à cet épisode et à nos 4 phases de cycle, mais souvent, voilà, chaque période de notre cycle est différente et c'est bien de l'honorer. J'ai quand même envie de dire un petit truc à ce sujet, que j'ai pas assez expliqué ou approfondi dans la première partie, mais déjà, pas de pression pour celles qui ont des cycles irréguliers ou qui ne savent pas où elles en sont. Si c'est votre cas, je vous conseille néanmoins de savoir pourquoi vos cycles sont irréguliers et d'être honnête avec votre mode de vie, si vous prenez soin de vous ou pas. Et bah sachez que vous pouvez quand même vous écouter, d'écouter votre corps. C'est peut-être plus subtil quand les cycles sont irréguliers, mais si vous vous posez, vous pouvez l'entendre. Pareil pour les filles, comme moi, selon certains cycles, qui ne sont pas forcément en phase avec ces fluctuations. Par exemple, idéalement, l'ovulation, c'est censé être le meilleur moment de notre cycle. On est censé être à fond, sociabiliser, se sentir carrément badass, trop belle, etc. Mais pour les femmes qui ont l'endométriose notamment, le SOPK aussi, ou juste qui sont un petit peu plus sensibles comme moi, bah parfois la période d'ovulation, ça peut être affreux. Et personnellement, parfois je me sens super bien dans cette période, and I make the most of it, comme il se devrait, entre guillemets. Mais parfois, je me sens un peu comme en phase lutéale, c'est-à-dire je me sens lourde, enflammée, ballonnée, irritable, pas envie de sociabiliser, pas envie de voir personne, juste envie de pleurer. Donc voilà, ça c'est dit. Mais je le sais et j'écoute quand même mon corps. et surtout, j'essaye d'être honnête avec moi-même. C'est-à-dire que je me demande à quel moment ces derniers mois, j'ai pas respecté mon corps ou mon rythme. Parce que souvent, on paye entre guillemets nos cycles passés. C'est-à-dire que si j'ai eu des mois où je l'ai trop poussé, ben souvent mes cycles d'après vont me le montrer. C'est vraiment un indicateur. Tout ça pour dire que pour vous, mesdames, c'est quand même possible de vivre avec vos fluctuations à vous, même si c'est pas dans les normes entre guillemets des cycles classiques, mais c'est vrai que ça demande un peu plus d'attention, un peu plus d'amour et une bonne dose d'honnêteté. Pour vous les hommes, c'est plus compliqué parce que vous n'avez pas de cycle menstruel, mais vous avez aussi des phases parfois. Donc peut-être honorer ces phases aussi. On n'est pas toujours obligé de sociabiliser, de performer. On vous aime quand même. On vous aime même quand vous n'êtes pas parfait, quand vous vous performez pas. Vous êtes quand même de vrais bonhommes, même quand vous vous posez et que vous ne vous prouvez pas. Vous êtes quand même de vrais bonhommes, même si vous vous laissez aller, que vous êtes dans votre énergie féminine, que vous n'avez pas la réponse à tout, et ouais, que vous n'êtes pas toujours dans le go, quoi. Ensuite, le neuvième point, neuvième conseil, c'est se lâcher la grappe. Arrêtez de se comparer. Je sais, les réseaux sociaux sont bien présents, la hustle culture et la société de consommation aussi. Les corps sont de nouveau de plus en plus secs, les plannings de plus en plus optimisés, les peaux de plus en plus lissées et botoxées, les voyages de plus en plus extravagants, les mariages aussi. Mais honnêtement, qui est-ce que vous essayez d'impressionner? Est-ce que votre corps, si magique qu'il soit, ne mérite pas d'être aimé et accepté exactement tel qu'il est? Est-ce que cette vie n'est pas faite pour être simplement vécue et appréciée dans le plus grand des calmes? Ah oui, je parle pas de ceux qui ont juste envie de partager, qui ont envie de fêter, qui ont le machin. Vous savez très bien de quoi je parle. On sait de quoi on parle. Hein? Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que parfois on se perd dans ces comparaisons, dans cette culture, dans ces standards. Alors que je vous donne cet exemple quand vous êtes face à un magnifique coucher de soleil qui est gratuit et qui ne demande rien de vous. Est-ce que vous vous sentez pas aussi serein et aussi en sécurité que si vous aviez le corps parfait, le boulot parfait, le compte en banque parfait? Beaucoup de ce qu'on cherche est gratuit. Beaucoup de ce qu'on a besoin est déjà à l'intérieur de nous. Beaucoup de nos symptômes et de nos malheurs seraient résolus si on prenait le temps d'apprécier et si on s'autorisait à revenir à soi, à accepter ces moments d'équilibre, à ne pas se conformer à un idéal qui est inatteignable. Franchement, on s'en fout de ce que les gens pensent. On s'en fout de ne pas cocher les cases. On s'en fout de pas être parfait, de pas être le meilleur. Comme on dit, soyez vous-même pour que l'univers puisse vous trouver. Genre, moi, bon, je vais pas trop en parler parce que c'est un sujet sur lequel j'ai parlé en long, en large dans d'autres podcasts, notamment avec Temanava. Mais le fait de toujours vouloir cocher des cases et cocher les standards de la société, c'est pas bon pour nous. Ça nous maintient dans un stress pas possible et surtout qu'au final, on passe à côté de notre vie en faisant ça. Donc vraiment juste, soyez vous-même. Les vrais vous trouveront et c'est l'essentiel. Et en plus, mais vous allez vous enlever une pression de fou. Moi, j'ai vu quand après mes troubles alimentaires, j'avais très peur de reprendre du poids. Et en fait, t'as pas le choix. T'es obligé d'y aller. Et au final, quand tu le prends, ben tout va bien en fait. Tout va bien, le monde n'a pas changé, les reels sont toujours là. Et en plus, ton corps, il sait ce qu'il fait. Et finalement, il se réorganise et il répartit tout. Et au final, je me rends compte que je suis passée à côté de ma vie pendant des années à vouloir être super skinny. Bon, pour mes propres traumas, mais pour au final, limite, ressembler à la même chose aujourd'hui qu'à l'époque, quoi. Et même si c'est pas le cas, on s'en fout. Honnêtement, on s'en balèque. Vraiment, lâche-toi la grappe. Arrête de te comparer. La vie, c'est maintenant. Ne passe pas à côté. Pour atteindre des standards qui en plus vont changer dans un an, dans quelques mois. Voilà. Ensuite, le dixième et dernier point pour équilibrer ses énergies et arrêter d'être dans le go-go-go, c'est... Ah bon, garder l'esprit ouvert sur celui-là, mais c'est essayer de cultiver une croyance en quelque chose. On a tendance à être très cartésien, comment dire, à avoir cette citation en tête qui est le voir pour le croire. Mais parfois, le lâcher-prise vient dans l'autre sens. Il faut le croire pour le voir. Et même quelqu'un d'aussi rationnel que Einstein, qui est physicien, mathématicien et scientifique, dit que tout est énergie. Donc même les plus cartésiens le savent, tout est énergie. Alors autorisez-vous à lâcher prise et à ne pas croire que vous seul tenez les rênes de tout. Parce que c'est faux. C'est une illusion de l'ego de croire que si on hustle, si on est tout le temps dans le go-go-go, alors on maîtrise tout. Alors on sera en sécurité, alors on sera aimé, alors on aura la best life. Non, il existe une force supérieure en qui vous pouvez avoir confiance, sur qui vous pouvez vous reposer. L'équilibre entre énergie masculine et féminine, c'est se dire ceci. Je pose les bases, je fais le nécessaire et ensuite je laisse l'univers faire le reste. Si vous croyez en Dieu, c'est pareil. Comme on dit, give it to God, then go to bed. Remettez-le à Dieu et allez dormir. On ne sait pas de quoi demain est fait. Vous pouvez hustle à fond la caisse et voir votre maison emportée par une tempête ou mourir durant une crise cardiaque. Juste faites la part qui vous incombe et donnez le reste à l'univers, donnez le reste à Dieu, laissez tout ça se réorganiser. Et en plus, j'ai envie de vous dire que c'est rassurant d'une certaine façon de se dire ça, de se dire que on a le droit de cueillir des pâquerettes de temps en temps. C'est rassurant de se dire qu'on ne contrôle pas tout. Parce que ben du coup, on a le droit de souffler en fait. Vu qu'on contrôle pas tout, ben, autant mieux souffler. Et aussi parler à cette force supérieure, homme ou femme, cultiver cette énergie féminine de croire en quelque chose qui ne se voit pas mais qui se ressent. Ici en Polynésie, on parle du mana. Ici en Polynésie, on a une connexion particulière à l'océan, à la nature. Cultivez-la. Même si vous êtes une girl boss, même si t'es une girl boss, ma chérie, tu peux cultiver cette énergie. Et honnêtement, ça te sera même bénéfique parce que l'univers veut que tu réussisses et il veut que tu réussisses de la façon la plus douce et délicate qui soit. De croire no pain, no gain et que tu peux atteindre des objectifs qu'en souffrant, c'est faux. Et c'est complètement faux. Non, l'univers il veut pas que tu souffres, ma biche. Voilà. Et bah d'ailleurs, ça y est, on arrive à la fin de la partie 2 de Girl Boss ou Sugar Daddy. C'était très long. Mais je vais quand même finir sur ceci, c'est que homme ou femme, tu peux avoir de l'ambition, tu peux monter ton entreprise, tu peux gérer tes enfants, tu peux adorer être on the go, avoir plein de projets, être consumé par tes projets et être beaucoup dans ton énergie masculine. Mais n'oublie pas aussi de revenir à ton énergie féminine, à ton flow, à ton intuition, à ton corps et pas uniquement à ton planning et à tes horaires fixes. Oui, écoute ton rythme circadien. Mais écoute aussi ton rythme lunaire, ton rythme infradien. Je sais que c'est cool d'être dans son énergie masculine. We get shit done. I get it. Mais crois-moi, c'est seulement jusqu'à ce que le pendule penche de l'autre côté. Si tu es parti trop loin d'un côté, il te renverra très loin de l'autre. Le but est d'osciller quotidiennement entre les deux. Tu peux être une girl boss et apprécier d'être traitée comme une princesse par un sugar daddy ou par ton propre sugar. Why not? Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous êtes encore là après tout ce blabla, vous êtes vraiment les real. Encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas grande philosophe, je ne suis rien du tout. Je suis juste une girlie qui apprend à vivre aujourd'hui dans cette société et ouais, qui essaie de faire du mieux, quoi, de passer des messages pour faire un monde peut-être un peu plus doux et un peu plus chill, qu'on se lâche la grappe. Et aussi, ces thèmes sont très vastes. Ces thèmes sont sujets à beaucoup d'interprétations, beaucoup de discussions. Ils sont aussi très personnels. Je ne peux pas m'étaler pendant des heures, même si j'aimerais me le faire. Mais là, actuellement, je me dessèche comme un chameau, tellement je fais que de parler. Et bon, bah, c'est pas évident de survoler des sujets aussi profonds et complexes. Donc, soyez aussi indulgents avec tout ça. Mais je suis bien sûr toujours ouvert au débat. Donc voilà, ils sont à écouter et à discuter avec un état d'esprit et un cœur grand ouvert. Merci beaucoup et à bientôt.